Bonjour à tous, merci de nous accueillir dans les murs de Sciences Po et dans le cadre de ce qui est d'ordinaire et aujourd'hui aussi le cours d'Olivier Duhamel et de Guy Carcassonne. Pourquoi cette configuration un peu spéciale? Parce que j'ai proposé à mes hôtes, en l'occurrence, d'avoir une discussion sur la Ve République en prévision de ce qui va être son 50e anniversaire à l'automne prochain. Il y a beaucoup d'anniversaires cette année. Celui-ci est encore discret, mais il n'y a pas de doute qu'à la rentrée, il sera très présent dans les médias. Un 50e anniversaire, c'est beaucoup en France pour une constitution. C'est un pays qui en a connu 14, si je ne me trompe pas, en 200 ans. C'est donc une constitution qui résiste au temps. Alors même si elle a subi de nombreuses réformes, de nombreuses coutures, même si elle est appelée à en subir d'autres, même si elle constitue un modèle relativement original dans les démocraties modernes, ce n'est pas vraiment un régime présidentiel américain, ce n'est pas un régime parlementaire comme on trouve dans les grandes social-démocraties européennes, eh bien malgré tout, elle résiste et elle semble constituer un peu un point d'équilibre dans l'histoire politique et dans la vie institutionnelle française. Alors je me tourne vers Guy Carcassonne pour commencer. J'aimerais bien l'entendre sur ce point. Est-ce qu'il vous semble, Guy Carcassonne, que, au fond, la Ve République a réglé les grands problèmes institutionnels français tels qu'ils ont pu se présenter au cours du XXe siècle, notamment?
Oui, je pense. Bonsoir. Je suis désolé, j'ai des problèmes de gorge. Et la cortisone paraissant plus efficace que le Havane, je suis passé à la cortisone, mais ce n'est pas encore complètement réglé. Oui, je crois que la Ve République a réglé l'essentiel des problèmes de gouvernance que la France avait connus auparavant. Pour autant, elle n'a évidemment pas réglé tous les problèmes. En ce sens, elle est constamment, évidemment, manifestement perfectible. Reste que elle a quand même apporté à la France ce qui lui manquait. Pour reprendre la formule qu'utilisait Michel Debré, elle a donné à la République figure de gouvernement. De sorte que, indiscutablement, ceux que les Français désignent librement ont entre les mains tous les moyens de diriger le pays. Qu'ils le fassent bien ou mal est hélas une toute autre histoire. Mais la Constitution, la meilleure des constitutions, ne peut offrir que ce qu'elle a. Et ce qu'elle peut offrir, c'est un minimum de clarté, un minimum de stabilité, des choix réels et des moyens d'action. Cette clarté, cette stabilité, ces choix réels, ces moyens d'action, avec les contrôles qui vont normalement de pair, même si nous sommes tous d'accord facilement pour considérer qu'aujourd'hui ils sont insuffisants, ont bien été apportés par la Ve République qui, à ce point de vue, a, me semble-t-il, réussi ce pari-là.
Olivier Duhamel, est-ce que vous partagez ce diagnostic? J'ai lu un certain nombre de textes de vous. Vous êtes, me semble-t-il, plus critique sur ce point.
Disons que dans l'évaluation de la Ve République, on peut par commodité, et pas seulement d'ailleurs, distinguer ce qui relève de l'efficacité gouvernementale au sens large, de l'efficacité du gouvernement du pays, et ce qui relève non plus de l'efficacité gouvernementale, mais de la vitalité démocratique. Le centre de ma critique porte sur la vitalité démocratique et pas sur l'efficacité gouvernementale. Sur l'efficacité gouvernementale, je ne poserai que des bémols. Il me semble que nous avons beaucoup eu tendance, et nous avons parfois encore tendance à encenser la Ve République et à diaboliser les républiques précédentes. Donc on vénère, par exemple, l'efficacité de la Ve République dans le règlement de la question algérienne. Bon, la question algérienne, manifestement, n'a pas été réglée par la Quatrième République en 2 ans et demi ou 3 ans. Elle l'a été par la Cinquième, mais elle ne l'a été par la Cinquième République qu'en 4 ans, ce qui est quand même un délai assez long. Je pourrais soutenir que par comparaison à d'autres systèmes politiques et à d'autres décolonisations, finalement, la française avec l'Algérie ne fut pas des meilleures. On a tendance à diaboliser la Quatrième République qui, malgré son instabilité ministérielle chronique, malgré le décalage entre les éventuelles expressions de volonté populaire à travers les élections et la réalité de ceux qui gouvernaient, a vraiment réussi la reconstruction du pays. On a tendance à surestimer dans l'efficacité de la Ve République le fait qu'elle permet à l'électeur d'exercer des choix réels qui sont ensuite mis en œuvre par les gouvernants. J'admets tout à fait, et je l'ai souvent dit et je l'enseigne ici, que la Ve République a pour part doté notre pays d'une démocratie majoritaire, c'est-à-dire que le peuple désigne une majorité pour gouverner le pays et un chef de cette majorité pour le conduire le temps de la mandature, certes, et que c'est un progrès de ce point de vue par rapport aux républiques antérieures. Mais les choix réels, le général de Gaulle a été désigné très largement en 1958 pour maintenir l'Algérie en France, il en a organisé l'indépendance. Les choix réels, en 1981, François Mitterrand a été élu sur un programme de transformation socialiste du pays, qu'il a d'abord appliqué, avant de lui tourner radicalement le dos et d'entreprendre une politique dite de rigueur, même pas assumée comme telle. Les choix réels, en 1995, on élit Jacques Chirac pour mettre un terme à la fracture sociale. Ce beau programme durera quelques mois. Les choix réels, sur quelle base, diable, est-ce que Jacques Chirac a été élu en 2002 ? Aucune, sinon faire face à Le Pen. Les choix réels, il semblait que Nicolas Sarkozy avait été élu en mai 2007 pour organiser une rupture et des réformes très profondes dans le pays. Il est évidemment trop tôt pour se déterminer, mais si j'étais un électeur libéral de droite, je commencerais à m'inquiéter. Donc, je trouve que, oui, on a une vision, même sur ce premier chapitre que vous présentez de l'efficacité de la Ve République, une vision un peu idyllique.
Alors, il se trouve que vous avez été tous les deux, je crois, membres du comité Balladur, qui devait formuler un certain nombre de propositions de réforme des institutions et de l'ordre constitutionnel en France. Alors, une question qui trouve une déclinaison différente à chacun de vous deux, à vous, Olivier Duhamel. Est-ce qu'il vous semble que les propositions de ce comité vont dans le sens d'une plus grande vitalité démocratique et sont donc de nature à corriger le défaut que vous pointez dans la Ve République ? Et à vous, Olivier Carcassonne, si on considère que...
Malheureusement, Guy.
Si vous jugez que ces institutions sont bonnes, qu'elles ont réalisé un point d'équilibre, où était la nécessité de ce comité Balladur ? Olivier.
Bah là, on va se retrouver assez d'accord, si vous voulez. Les accords sur lesquels on reviendra entre Guy Carcassonne et moi-même, c'est que je pense que la France gagnerait sérieusement à changer de république. Mais il y a deux points sur lesquels nous sommes d'accord, lui et moi. Le premier, c'est que, à brève échéance, le changement de république qui rapprocherait de la France du modèle démocratique européen, c'est-à-dire d'une démocratie primo-ministérielle, d'une démocratie parlementaire dirigée par le Premier ministre, est hors d'atteinte. Parce qu'en France, ce qui impliquerait d'ailleurs démonstration, il imposerait la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est une chose tout à fait étonnante, hein, et qui n'est pas de l'ordre de la mécanique institutionnelle. Vous avez un très très grand nombre de pays européens qui désignent au suffrage universel direct leur président, et où pourtant le pouvoir politique est dirigé par le Premier ministre. Islande, Irlande, Finlande, Pologne, Portugal, Croatie, Autriche, etc., etc., etc. Il n'y a qu'en France que l'élection présidentielle fait du président le chef du gouvernement. Donc ce n'est pas du tout pour des raisons exclusivement d'ordre institutionnel. C'est aussi pour des raisons de culture politique. Le résultat d'une démonstration qu'il serait trop longue de conduire dans le détail, c'est qu'il faudrait supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel. Et c'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible pour deux raisons. La première, qui suffirait à elle seule, c'est qu'aucun président de la République élu ne considérera que c'est une tare qu'il ait été élu et que c'est une tare qu'il gouverne le pays. Il considère au contraire que c'est une double chance exceptionnelle et donc n'enclenchera une révision de ce type. La deuxième raison, c'est que les Français adorent l'élection présidentielle et plus nous avançons dans la vidéocratie, plus ils adoreront l'élection présidentielle. À partir du moment où c'est hors d'atteinte, même si Guy Carcassonne et moi-même sommes d'accord dans l'idéal pour considérer qu'une démocratie parlementaire dirigée par le Premier ministre est plus démocratique et aussi efficace que le système français, il faudrait attendre une grande rupture et une vraie révolution pour que cela se produise. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux possibilités, à part ne rien faire et trouver que tout va bien. La première possibilité, dont on débattra peut-être tout à l'heure, c'est de changer de système en gardant l'élection directe du président. Changer de système en gardant l'élection directe du président, ça veut dire adopter un régime présidentiel du type américain, sens continental du terme, Canada excepté, hein. Brésil, Chili, toute l'Amérique latine et évidemment les États-Unis ont un régime présidentiel. Juste pour amorcer, je soutiens que c'est tout aussi efficace et plus démocratique. Guy Carcassonne soutient que c'est moins efficace et pas forcément plus démocratique. Ça méritera qu'on en débatte. Mais il se trouve aussi qu'aujourd'hui en France, en 2008, la perspective d'une transformation de la Ve République et de l'adoption d'une VIe République du type présidentiel n'est pas possible. Il n'y a pas de majorité pour choisir cela, ni à l'UMP, ni au Parti Socialiste, même s'il y a quelques voix en cette faveur, ni dans la tête de Nicolas Sarkozy. Alors reste la dernière hypothèse qui est, en conservant la Ve République, la réformer au maximum pour lui insuffler toute la vitalité démocratique qui lui manque. Ça passe fondamentalement par un renforcement très significatif des pouvoirs et moyens d'action réels du Parlement, par un encadrement et limitation des pouvoirs présidentiels, et par éventuellement une extension du référendum et du recours au Conseil constitutionnel. Sur cela, le comité Balladur s'est très largement accordé, a fait 77 propositions qui, si elles étaient toutes adoptées ou si les trois quarts d'entre elles étaient adoptées, donnent une chance réelle pour un rééquilibrage démocratique de la Ve République.
Guy Carcassonne, pourquoi est-ce qu'il fallait ce comité Balladur? Qu'est-ce qu'il va produire? Est-ce qu'il va dans le sens d'une plus grande efficacité? Et est-ce que vous partagez par la même occasion le diagnostic d'Olivier Duhamel sur le manque de vitalité démocratique de la Ve République?
Je crois que ça, c'est un diagnostic qu'il est difficile de ne pas partager. Évidemment, je le partage, bien sûr. Ce qui manque à la Ve République, c'est la vitalité démocratique dont parle Olivier Duhamel. Pour le reste, bon, je pense qu'on reprendra sans doute les autres aspects de la discussion sur le régime présidentiel, sur l'attachement des Français à l'élection présidentielle. Moi, je n'exclus pas que cette élection qui passionne tant les Français finisse par perdre de son lustre au fur et à mesure que les candidats perdent de l'intérêt. En gros, à terme, je pense qu'une décroissance continue de la qualité personnelle des candidats pourrait très bien finir par amener à ce que les Français se détournent de cette foutue élection, et je pense que le chemin est en cours. Oui, je crois très sincèrement que...
Tu penses par exemple que l'expérience des deux derniers mandats présidentiels ont conforté ta thèse?
Évidemment, je pense que Chirac-Le Pen et Sarkozy-Royal, ça n'a pas la même allure que... De Gaulle-Mitterrand et même Mitterrand-Giscard, pour dire les choses simplement. Et que si l'on continue sur la même pente, un jour ou l'autre, les Français eux-mêmes finiront par s'en aviser, qui pourtant ne sont pas étrangers au processus qui amène à la désignation de tels candidats. Mais ça, c'est une conjecture, donc je ne m'avancerai pas plus longtemps là-dessus. Sur l'autre aspect, bien sûr, même à constitution globale inchangée, il va de soi que des améliorations sont possibles et nécessaires. Regardez l'actualité du jour. L'actualité du jour, ou de la semaine, disons. La semaine dernière, vous avez tous entendu Ségolène Royal s'indigner de ce que Nicolas Sarkozy ait annoncé, ou est présenté plus exactement devant les parlementaires britanniques, le prochain envoi de renforts français en Afghanistan, sans l'avoir fait devant les parlementaires français. Mais évidemment, devant les parlementaires français, il n'en a pas le droit. Nous avons d'ailleurs proposé qu'il en ait le droit, mais néanmoins, le parti auquel appartient Ségolène Royal y est farouchement hostile. Il y a une contradiction dans la critique. Deuxièmement, aujourd'hui, finalement, un débat a lieu sur ce même envoi d'un contingent supplémentaire en Afghanistan, à l'occasion duquel, pour manifester leur indignation de ce que ce débat ne soit pas suivi par un vote, nous apprenons que l'opposition socialiste décide de déposer une motion de censure. Très bien, soit. Donc il y a un débat, il y a un vote. Mais franchement, tout cela est un peu pitral. À partir du moment où il va y avoir un débat de censure, même s'il porte sur un aspect de politique extérieure, il va de soi que les positions des uns et des autres se détermineront par rapport à l'objet du vote, c'est-à-dire censurer le gouvernement de François Fillon, et que, évidemment, aucun député UMP ne votera cette motion de censure. Si, en revanche, comme l'a proposé le comité Balladur, l'engagement de troupes françaises sur un théâtre extérieur, au-delà de 3 mois, nous avions proposé, le gouvernement qui rogne un peu sur tout, à porter ça à 6, devait faire l'objet d'une autorisation délivrée par une loi. La loi aurait un objet précis, donner cette autorisation. Elle serait soumise à un vote ayant cet objet précis, de sorte que l'on pourrait trouver aussi bien des parlementaires de l'opposition qui l'approuvent que des parlementaires de la majorité qui le désapprouvent, et le scrutin, alors, aurait un véritable sens. Si l'on veut parler de revitalisation démocratique, je pense que l'actualité du jour offre une illustration tout à fait topique. Et il y a évidemment bien d'autres mécanismes par lesquels un résultat comparable pourrait être atteint, et c'est sur cela que nous avons travaillé.
C'est un exemple très intéressant parce que c'est un exemple qui montre la complexe interaction entre institutions et mœurs. Si vous voulez, il est complètement inimaginable dans un certain nombre de démocraties qu'il y ait un engagement militaire conséquent du pays à l'étranger sans que le Parlement en fasse une évaluation contradictoire, soutenue, approfondie. Pourquoi est-ce qu'on va en Afghanistan? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce que ça va coûter? Quelles sont les actions qu'on veut y conduire? Quelle est leur probabilité qu'elles contribuent à un apaisement et à une pacification effective et à une victoire contre les talibans, mais pas seulement une victoire militaire, mais à une progression pour le pays dans son ensemble, etc., etc. En France, vous n'avez non seulement pas eu ça, mais vous avez cette espèce de simulacre dans lequel, d'abord, il faut protestation et demande explicite du président de l'Assemblée nationale dans un geste jugé comme extraordinairement autonome pour qu'enfin un débat soit accordé, et que d'autre part, le débat soit un débat quand même extraordinairement primitif, avec les uns, faut bien mener la guerre contre les talibans, et les autres, vous vous alignez sur les États-Unis, ce qui est quand même est une forme de degré zéro de démocratie. Alors on voit bien que si on met une réforme institutionnelle dans laquelle on donne au Parlement les pouvoirs que Guy Carcassonne a indiqués, on a une petite chance d'aller vers une plus grande vie démocratique et une délibération publique en la matière, mais que ça ne suffira pas, qu'il faut, parce qu'ils peuvent très bien le jouer de la façon dont ils le jouent ce début avril 2008 sur la scène parlementaire, et que donc... Oui, bien sûr.
Oui, juste une précision sur ce dernier aspect. Si l'autorisation ne devait être délivrée que par une loi, ça change absolument tout, parce que ça signifie que la loi, comme toute loi, est d'abord soumise à une commission, oui, où évidemment tous les partis sont représentés, qui l'examine, qui auditionne les ministres, toutes les personnalités compétentes, dont les débats peuvent être retransmis, laquelle commission produit ensuite un rapport sur la base duquel la loi est examinée en séance, de sorte que le contenu même de la discussion n'a plus rien à voir avec les positions non pas décrites qu'Olivier vient de caricaturer, mais les positions caricaturales qu'Olivier vient de décrire. Et ça change absolument tout, sur le fond aussi.
À condition d'avoir au moins quelques vrais parlementaires compétents et impliqués, ce qui implique par exemple le combat que mène Guy Carcassonne de longue date et sur lequel je l'ai rejoint de longue date, l'interdiction du cumul des mandats. Parce que l'interdiction du cumul des mandats permettra d'avoir des vrais parlementaires qui fassent effectivement leur travail. Donc c'est intéressant sur le... Pour faire du cercle vicieux institutions mœurs, il faut des mœurs démocratiques pour avoir des institutions démocratiques, mais il faut des institutions démocratiques pour avoir des mœurs démocratiques, l'espèce de paradoxe pessimiste qui concluait un peu la pensée de Jean-Jacques Rousseau, pour le transformer en cercle vertueux, eh bien, il faut articuler des réformes strictement institutionnelles du type de celles qu'on vient de dire en matière d'opérations militaires, avec une autre apparemment institutionnelle, mais en vérité à effet culturel profond, comme la fin du cumul des mandats.
Est-ce qu'il y a pas là
Mais comme par hasard, celle-là est refusée, évidemment.
Est-ce qu'il n'y a pas là encore, pas simplement un problème de mécanique institutionnelle, mais aussi un problème de pratique institutionnelle ? On se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, la commission dite d'Outreau a retenu l'intérêt public, a généré beaucoup de discussions, beaucoup d'attention civique. Au fond, les parlementaires ont aujourd'hui des droits dont ils font un usage assez rare. Est-ce que vous ne pensez pas que... C'est vrai, bien sûr, il y a un problème de démocratisation de droits du Parlement, mais il y a aussi un problème de pratique politique.
Il va de soi que dans tous les systèmes institutionnels se posent des problèmes de pratique politique, de qualité des joueurs face à une constitution qui se borne à déterminer la règle du jeu. Cela, la constitution ne peut pas en être comptable. Elle peut adapter les règles du jeu pour favoriser plutôt les joueurs de talent que les joueurs sans talent, mais elle ne peut pas produire davantage. Reste que parmi les joueurs en question, il y a le président de la République, les candidats à l'élection présidentielle, les députés, les sénateurs, les ministres, il y a les Français eux-mêmes aussi. Dans les cas d'Outreau, si les Français avaient été assez motivés pour que des sondages, des études d'opinion se révèlent la conviction selon laquelle une réforme profonde de la justice serait un critère d'appréciation très différentiel des candidats à l'élection présidentielle, nul doute, que le rapport de la commission d'Outreau aurait eu des suites différentes. À partir du moment où les Français, quoique passionnés par cette commission, n'ont pas semblé être spécialement attachés à ces lendemains, ben évidemment, ça n'a tenu absolument aucun rôle dans la campagne présidentielle. Une fois encore, il y a aussi une dimension dans tous les systèmes démocratiques qui est liée au contenu de la demande.
Mais alors là, du coup, pour vous répondre par rapport à la pratique, si vous voulez, si on distingue mécanique institutionnelle, pratique politique et mœurs culture, et voir comment tout cela s'articule ensemble, alors là, j'en viens à mon vrai désaccord avec Guy Carcassonne, mais pas du tout pour des raisons de pure mécanique institutionnelle. Je pense très profondément que dans notre pays, qui a une culture démocratique faible, qui a une grande tradition autoritaire, monarchiste, jacobine, bonapartiste, stalinienne, hiérarchique, catholique, tout ce que vous voulez, toutes nos cultures principales et lourdes ne sont pas des cultures démocratiques. L'élection présidentielle est un facteur aggravant et le présidentialisme est un facteur aggravant du facteur aggravant. Le présidentialisme qui fait que le président, en fait, se subordonne les autres pouvoirs et que par rapport à cela, l'adoption d'un régime présidentiel, puisque l'autre solution, la solution mendésienne d'une république parlementaire avec un Premier ministre à sa tête, est à court et moyen terme hors d'atteinte, l'adoption d'un régime de type présidentiel serait un grand progrès par rapport au présidentialisme. Parce que là, pour le coup, il garantirait une vitalité démocratique pleine au Parlement. Pour quelle raison ? Parce que le Parlement serait déconnecté du gouvernement. Ce qui distingue un régime présidentiel du présidentialisme, le présidentialisme, c'est un système pyramidal avec un bloc majoritaire cohérent. Le président qui commande au Premier ministre et au gouvernement qui commande à leur majorité au Parlement. Le système américain, ce n'est pas le système pyramidal, c'est un système séparé dans lequel vous avez la branche exécutive, comme il l'appelle, avec le président et son gouvernement, son équipe, et la branche législative. Et aucune des deux branches ne dépend de l'autre. Donc comme la branche législative ne dépend pas de l'exécutive, très peu dans son élection, pas du tout dans sa révocation, puisqu'elle ne peut pas être... la dissolution est impossible, elle est par nature indépendante. Et cette indépendance institutionnelle qui a l'air de n'être qu'un choix de mécanique institutionnelle a en vérité des conséquences sur la pratique politique et donc à terme sur la culture politique qui sont, me semble-t-il, des conséquences positives, pas forcément plus positives que ce qu'on trouve dans le système parlementaire à direction du Premier ministre européen, mais infiniment plus positives que ce qu'on trouve dans le présidentialisme français d'héritage monarcho-jacobino, bonaparto-stalinien.
Guy Carcassonne, vous pouvez réagir directement.
Oui, on ne va pas recommencer, surtout pour les étudiants qui l'ont déjà entendu au moins en partie, le débat sur régime présidentiel et régime parlementaire. Je ferai juste une observation.
C'est entre régime présidentiel et système présidentialiste.
Présidentialiste, oui. D'accord, entre régime présidentiel et régime présidentialiste. Mais juste une observation pour dire que de deux choses l'une, ou le Parlement joue son rôle ou il ne joue pas son rôle. S'il jouait son rôle dans le régime présidentialiste, je pense que le régime cesserait largement d'être présidentialiste. Et s'il ne joue pas son rôle dans le régime présidentialiste, je ne suis pas sûr que le changement de la règle du jeu suffise à l'amener à jouer son rôle dans un régime présidentiel. Auquel cas, on aurait progressé en rien. En d'autres termes, aujourd'hui, les députés ne sont pas là, ne font pas leur travail, n'utilisent pas les compétences pourtant considérables qui sont les leurs. Je veux bien que ce soit exclusivement par assujettissement à la personne du président de la République à raison de l'élection. J'ai peur que ça ait aussi d'autres causes. Si demain nous passions à un régime présidentiel, je ne suis pas sûr qu'un miracle se produirait au terme duquel les députés deviendraient présents, actifs et exploitant les pouvoirs qui sont les leurs. Donc ceci me laisse ouïrablement ou déraisonnablement sceptique.
Un autre point sur lequel je voulais vous entendre, et comme le temps passe, j'y viens plus vite que prévu, c'est le constitutionnalisme, le rôle du Conseil constitutionnel. La Ve République a adopté le constitutionnalisme chemin faisant. Ce n'était pas un mouvement naturel sans le faire exprès, vient de me dire Guy Carcassonne.
Nous avons passé l'heure pressée sur cet épisode.
D'accord. Bon. Moi, j'aimerais savoir, parce que ça fait longtemps qu'il y a des débats un peu récurrents sur cette question du mode de saisine du Conseil constitutionnel, de la publicité des débats du Conseil. Quelle est votre question? Est-ce que les réflexions du comité Balladur vont faire avancer un petit peu les choses, selon vous, Olivier Duhamel?
Elles peuvent le faire avancer sur la saisine du Conseil constitutionnel à partir du moment où on met fin à cette anomalie française selon laquelle le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que a priori et par des autorités publiques et en aucun cas par des justiciables. Et le comité Balladur a eu du mal à s'accorder sur les règles, mais pas sur le principe qu'un justiciable puisse, d'une façon ou d'une autre, invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi au Conseil constitutionnel. Cette anomalie qui fait qu'un juge ordinaire juge de la conformité d'une loi à la Convention européenne des droits de l'homme, mais que aucun juge n'est pas le Conseil constitutionnel, ne peut la juger si on le lui demande en justice à la Constitution. Ça a été suivi d'un débat très violent au sein du gouvernement, enfin très vif au sein du gouvernement Latto-Sinsu. On sait que Henri Guénaud, par exemple, conseiller spécial du président de la République, a été à un moment jusqu'à mettre sa démission en jeu pour essayer d'empêcher l'adoption de l'exception d'inconstitutionnalité. Ce qui avait fait dire à un mauvais esprit, c'est une bonne affaire, un très mauvais esprit, pourtant pas de mon côté politique. Si jamais c'est adopté, on fera une paire de coups, mais ça c'est une plaisanterie. L'exception constitutionnalité va être adoptée, c'est une bonne chose. Sur un autre problème qu'on a est celui de la composition du Conseil constitutionnel, problème auquel je suis peut-être plus sensible que Guy Carcassonne. Je pense d'abord que la couleur politique de l'autorité de nomination joue sur les décisions du Conseil constitutionnel et que c'est normal que ça joue. Nous, on est dans un pays dans lequel on considère que ce serait pas normal que ça joue et qu'on fait semblant que ça joue pas. Il y a une hypocrisie française hallucinante pour faire croire que si on a été nommé par la droite, ça ne joue en rien, ou par la gauche d'ailleurs, ça ne joue en rien sur les choix qu'on peut faire quand on examine une décision. C'est vraiment la vieille hypocrisie césaropapiste qui se perpétue dans toute sa splendeur. Évidemment que ça joue, c'est normal que ça joue, et du coup, il faut assurer un mode de désignation qui soit pluraliste pour garantir que des sensibilités politiques différentes s'expriment au Conseil. C'est vrai qu'au Conseil constitutionnel, les membres, à quelques exceptions misérables près, se détachent de leurs mains les plus petitement partisans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas strictement aux ordres des choix du parti politique du moment. Ils prennent un peu de distance et de hauteur. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que leur idéologie juridique, dans le sens noble du terme, leur conception plus conservatrice ou plus progressiste, est marquée par leur appartenance politique ou par les choix le camp politique qui les a désignés. Et c'est le cas dans toutes les cours constitutionnelles et à la Cour suprême des États-Unis. Il faut donc assurer un plus grand pluralisme dans la composition du Conseil constitutionnel.
Guy, votre opinion sur ce sujet? Vous me disiez à l'oreille, la Cinquième a adopté le constitutionnalisme sans le faire exprès. Est-ce qu'on va approfondir ce régime adopté par rencontre?
Non, mais sur l'exception d'inconstitutionnalité, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Olivier. Je suis évidemment pleinement d'accord et je pense que l'exception est à la fois nécessaire et suffisante. C'est là que je me sépare d'Olivier. Sur le mode de composition, il ne faut pas, comment dirais-je, outrer le propos que le mode de composition par des personnalités politiques change quelque chose. Il n'y a aucune espèce de doute. Qu'il détermine quelque chose, il n'y a aucune espèce de doute. Mais tout à fait différente est la situation dans laquelle le mode de désignation implique tout, change tout. Et à cet égard, dès l'instant où les membres du Conseil constitutionnel devraient leur nomination non pas à des personnalités individuelles auxquelles ils survivent, mais à des formations politiques dont la durée est éternelle, ou en tout cas sensiblement plus durable, je pense que le résultat serait désastreux. Regardez la composition actuelle du Conseil constitutionnel. On peut en penser ce qu'on en veut, et moi-même, ici, ai été assez critique sur certaines de ces décisions.
8 membres nommés par la droite, 1 par la gauche, plus 2 anciens absolument. Présidents de droite. Bonjour.
Absolument.
Bonjour, les cas décisions rétention de sûreté.
Absolument.
Qui n'ont été pris dans aucune autre cour constitutionnelle d'une démocratie digne de ce nom, à composition plus pluraliste.
Je ne suis pas du tout sûr que le pluralisme aurait changé quoi que ce soit, car si c'était une question de pluralisme et que c'était proportionnel à la présence droite-gauche au sein de l'hémicycle, ce serait passé de la même manière dans ce raisonnement-là. Donc ça ne tient pas debout. On trouve actuellement...
Non, c'est pas proportionnel, c'est un flux épars et c'est pour ça que ça tient debout.
L'ancien premier président de la Cour de cassation, vice-président du Conseil d'État, premier président de la Cour des comptes, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale... qui oblige encore, enfin, deux anciens présidents de la République, mais ça c'est anecdotique.
Comme si les titres passés faisaient l'indépendance d'esprit.
Bah oui, mais s'ils n'ont jamais été indépendants, il aurait peut-être mieux valu s'en rendre compte avant qu'ils n'occupassent ces fonctions éminentes à la Cour de cassation, au Conseil d'État et à la Cour des comptes, plutôt qu'au moment où, en fin de carrière, ils vont enfin pantoufler au Conseil constitutionnel.
Ils sont un peu indépendants, mais ils le seraient davantage si c'était pluraliste.
Dans les systèmes que l'on nous montre en exemple, ceux du pluralisme, et je songe en particulier à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, excusez du peu, il est de fait que le système de recrutement par la voie parlementaire à des majorités qualifiées aboutit à ce que des gens extrêmement compétents, ont quand même une condition d'accès au tribunal constitutionnel qui est d'être encartés. S'ils ne sont pas encartés d'un côté ou de l'autre, ils n'ont purement et simplement aucune chance d'être nommés. Or, Jean-Louis Debré est encarté. À l'UMP, tout le monde le sait. Mais il a été nommé par Girac, qui aujourd'hui n'est plus président de la République. Il ne doit rien à Nicolas Sarkozy, si ce n'est, semble-t-il, une dent. Et donc, au moins, est-il peut-être pas neutre, mais en tout cas indépendant de Nicolas Sarkozy. Tous les autres sont également indépendants de Nicolas Sarkozy. S'ils prennent de mauvaises décisions, je pense que c'est parce qu'ils font de mauvaises appréciations. Mais je ne crois pas que ce soit parce qu'ils sont plutôt à droite ou plutôt à gauche.
Olivier, un dernier mot sur ce point.
Ce que je souhaitais dire.
Hein bon. Alors moi, j'ai une dernière question et après on vous donne la parole parce que le temps passe. Il y a un certain nombre de mots qui sont devenus des fétiches de la vie politique, la proximité, le terrain, la participation. Est-ce qu'il vous semble d'abord que ce soit un paradigme de la vie publique de plus en plus présent et important? Et si c'est le cas, est-ce qu'il vous semble que ces notions doivent trouver une traduction institutionnelle? Je n'ose pas vous dire est-ce que vous êtes pour ou contre les jurys de citoyens, mais il y a de ça. Olivier.
Le terrain, la proximité, c'est ça?
La participation, enfin tout ce qu'on voit
se développer. Non, mais je ne mets pas la participation dans la même catégorie que... Le terrain et la proximité. Le terrain et la proximité, c'est bien pour les élections locales. C'est tout à fait indispensable. Et les collectivités locales remplissent cette fonction. Le culte du terrain et de la proximité au niveau national, ça fait partie de la pitrerie compassionnelle télévisuelle dégradante. Ça n'a aucun sens. La participation, c'est une question plus complexe. Je pense qu'en effet, on a besoin de développer des formes de participation citoyenne autres que le seul vote quinquennal et qu'il n'est pas si simple que ça de trouver, d'inventer les formes en question. Et je suis très surpris de constater que dans ce qui a été abandonné parmi les propositions du comité Balladur, il y a abandon partiel, prudent, avec quelques excuses, et en disant qu'il faut approfondir le débat de la proposition d'à terme interdire tout cumul des mandats et de le limiter d'ores et déjà plus drastiquement. Là, on l'abandonne, bien dans la tradition française corporatiste, cumularde et présidentialiste d'ailleurs au niveau local, mais on a un petit peu honte. Donc on dit qu'il va falloir l'étudier encore, discuter et tout. Bon. Mais en revanche, la proposition d'introduire un référendum d'initiative citoyenne, qui figurait déjà dans le premier comité Venel en 1993,